émission exceptionnelle aujourd'hui. Nous sommes à l'événement Women Do Wine. Où est Romain, me direz-vous ? Rassurez-vous, il est là, mais pour cette journée exceptionnelle, nous avons voulu changer un peu et nous aussi mettre les femmes du vin à l'honneur. Bienvenue dans La Terre à Boire. Nous sommes au salon Women Do Wine. On soutient l'action à fond. Car même si l'égalité homme-femme s'améliore et que beaucoup de chemin a déjà été parcouru, il reste encore beaucoup de choses à améliorer. En tant que client, on a toutes et tous eu ces exemples de serveurs, voire même de sommeliers qui souvent confient la carte des vins aux hommes. Présents à table, sans se soucier de la gente féminine présente aussi. De même, quand il s'agit de faire goûter le vin, certains récalcitrants, même si c'est madame ou mademoiselle qui a choisi, le font goûter à ces messieurs. En tant que professionnel, on a toutes vécu ce moment, même s'il arrive moins souvent maintenant, où lorsque l'on arrive avec la carte des vins, on vous demande sans sourciller le sommelier. Moi, j'ai mon truc, comme vous savez, c'est l'humour. Alors je réponds avec un grand sourire que je peux aller chercher le directeur, mais que celui-ci n'a ni sa mention complémentaire sommellerie, ni son WSET. En général, ça se finit bien, un petit sourire, un petit « pardon, je n'avais pas vu votre grappe », comme si on la portait pour la déco. Mais hélas, très rarement, mais ça arrive encore, il y a des cons qui vous répondent que oui, faites cela, allez chercher le directeur. Dans ce cas-là, bah, tant pis, c'est pas une grosse perte. Et donc maintenant, sans plus attendre, je vous présente Sandrine.
Bonjour.
Et donc, je vous présente aussi les garçons autour de nous.
Bonjour.
Donc,
Florence.
Il y a Romain qui est bien là, Philippe, Sandrine. Et Sandrine, tu peux nous donner ton nom de famille, s'il te plaît, parce que je ne sais pas le prononcer.
Alors, c'est fait exprès pour embêter les journalistes particulièrement français. Donc, je m'appelle Sandrine Goivaerts.
Voilà, c'est simple, pourtant.
C'est pas si compliqué, mais c'est l'abus de lettres qui fait un peu
avec
peur.
Avec l'accent.
Ouais.
Et donc, consonne.
Marie-Élodie également.
Voilà.
Tu peux te présenter ?
Donc, Marie-Élodie, Ziguera, Confuron, il y a deux noms.
Voilà.
On va y revenir, parce que ça va être une émission consacrée aux femmes du vin.
Aux femmes du vin.
Et on commence avec Sandrine.
Donc, Sandrine, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de comment t'étais venue cette idée de lancer Women Do Wine ?
Alors, moi, je travaille dans le monde du vin depuis maintenant presque 20 ans. Ça fait un bail. Et c'est vrai que j'ai rencontré dans ma pratique pro plein de nanas, très intéressantes, très compétentes. Et je m'interrogeais un petit peu sur la façon dont elles étaient perçues par le public et aussi présentées dans les médias. Mais c'était une question qui restait un peu secondaire chez moi jusqu'à ce qu'un jour, on m'envoie un courrier plutôt, où on m'annonce que je remporte un prix et que je suis désormais un homme de l'année. Donc l'homme de l'année s'est un peu demandé ce qui lui tombait sur le rable et bon, ça m'a fait évidemment beaucoup rire, mais cette récompense qui était décernée par la revue des vins de France et qui récompensait des personnalités du vin avec cette dénomination là, en fait c'était pas une dénomination due au hasard, puisque sur la scène, quand je suis montée sur scène, j'étais une des deux seules femmes sur 15 primées. Donc c'était très peu représentatif de ce qui se passe dans le monde du vin. L'assemblée, y avait aussi pratiquement que des hommes. Et c'est là que j'ai eu le premier déclic en me disant « il y a quelque chose à ce niveau-là qui cloche ». Et donc, j'ai examiné un peu les palmarès d'année en année et j'ai constaté qu'il n'y avait jamais ou très peu de femmes récompensées. J'ai écrit à la Revue des Vins de France notamment, où on m'a répondu « non, mais les femmes du vin, ça n'existe pas, c'est un peu des licornes ». Et puis, de temps en temps, il y en a 3-4 qui sortent du lot, mais bon, il y a Louis Mars pour ça. Et donc, cette réponse ne m'a pas beaucoup plu. Et j'ai lancé sur les réseaux sociaux un hashtag, Women Do Wine. C'était au moment d'Angoulême, du festival BD, qui lui souffrait d'un manque d'autrices BD. Et elles avaient lancé un hashtag Women Do BD pour mettre en avant les femmes de la BD. Donc j'ai repris la même chose sur le même modèle en demandant aux gens de participer et d'envoyer des photos de femmes du vin. Ça a été très, très, très repris. On a eu des tas de nanas.
On l'a fait.
Et l'idée de faire une association vraiment a germé. Chose faite en 2017. En mai 2017, l'association est née avec une forme juridique. Et en septembre 2017, on a ouvert les adhésions avec une soixantaine d'adhérentes au départ.
qui sont aujourd'hui plus de 200.
Qui sont aujourd'hui plus de 400.
Plus de 400.
Plus de 400 adhérentes sur 14 pays. Là, on a gelé les adhésions parce qu'avec l'organisation de la journée, on ne pouvait plus du tout s'occuper de ça. Mais donc, on a gelé les adhésions. Mais je sais qu'on a encore une vingtaine ou une trentaine d'adhésions en attente d'être validées. Et tous les jours, on reçoit encore des demandes. Donc c'est plutôt balèze sur 2 ans.
Puisqu'on est dans les chiffres, moi, je suis tenté. On va essayer aujourd'hui de faire un petit récap, d'avoir un peu une vision d'ensemble. Mm-hmm. On dit il y a des femmes dans le vin, ça c'est oui. Une évidence, il y en a beaucoup qui ont répondu à ton appel. Est-ce qu'on s'est quantifié déjà ?
C'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Mm. Moi j'ai essayé de chercher via les syndicats de vignerons, j'ai essayé de chercher aussi chez les vignerons indépendants, enfin, et c'est très très compliqué, il n'y a pas de répartition par genre. Donc on arrive à extraire quelques chiffres, mais on ne peut pas croiser les données. Ce qu'on peut déduire de certaines statistiques là qui sont vérifiables, c'est qu'en moyenne en France, 30% des chefs d'exploitation sont des femmes. Donc 30% de chefs d'exploitation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nanas qui bossent à côté de leur conjoint. Souvent pour des raisons juridiques d'ailleurs et des questions de sous, de pognon, c'est souvent d'ailleurs la nana qui est pas chef d'exploitation, mais c'est son mari qui prend le statut. On sait aussi que dans les facs d'œnologie et dans les écoles d'hôtellerie, les femmes maintenant sont surnuméraires partout.
Ça fait à peu près 5 ans, de par mon expérience de prof,
oui.
On est à peu près à 60-70% de filles en mention complémentaire sommellerie. Depuis au moins 5 ans, on est à 60-70% de filles au niveau des candidates.
Et c'est pareil dans l'œnologie, avec aussi quelque chose, c'est que avant, il y avait aussi pas mal de nanas qui faisaient l'œnologie, mais qui ne se destinaient pas au métier technique. Donc, elle bifurquait plus tard vers la communication ou vers des métiers plus administratifs. Elle ne faisait pas forcément de l'œnologie de labo ou elle ne faisait pas forcément des métiers techniques comme maître de chais, etc. Maintenant, c'est en train de changer et on commence à en voir vraiment de plus en plus. Mais la sommellerie est particulièrement touchée par cette vague féminine.
C'est ça, et on a l'impression qu'il y a quand même, comment dire, il y a plusieurs catégories. On vient de d'en parler, il y a au domaine, et on va en reparler avec toi, Marie-Élodie. C'est une problématique en soi, donc il y a les femmes d'eux, les filles d'eux, les sœurs d'eux. Il y a énormément de domaines. Tu dis, il y a 30% de chefs d'exploitation qui sont des femmes, mais il y a, j'ai presque envie de dire, il y a 100% des exploitations dans lesquelles il y a des femmes qui travaillent, ou quasiment.
C'est-à-dire en fait, oui.
Dans beaucoup d'exploitations, nous, on a interviewé beaucoup de vignerons. Quand tu les rencontres un peu, qui fait déguster quand il y a des clients qui se présentent parce que les hommes sont au champ ou ailleurs, bien souvent, c'est la
ou,
femme.
Ou qui gère la vigne alors que le monsieur est à la communication. Parfois, c'est intéressant de poser la question dans ce sens-là parce qu'on s'imagine toujours que la nana, elle fait la com et elle lave les verres. Non, les hommes font très bien la vaisselle une fois qu'on leur a montré 3 fois et qu'on leur a répété 4 fois que c'est pas ce produit-là qu'il faut utiliser. Mais non, vraiment, enfin, il faut examiner au cas par cas les domaines. Mais on a tellement l'habitude d'avoir une espèce de configuration. Le vigneron est le référent et sa femme est un objet de décoration rapporté. Le mot vigneronne est un mot assez récent, c'est apparu dans les années 60-70. Avant, les femmes, elles étaient femmes de vignerons ou elles étaient filles de vignerons. Elles n'étaient pas vigneronnes. Une fois qu'une femme héritait d'un domaine, c'était très compliqué pour elle d'assurer une filiation, c'était très compliqué pour elle de reprendre. Et ce qui se passe, c'est que les domaines passaient en dot. Donc, c'est les maris vignerons qui récupéraient le domaine. Maintenant, de plus en plus, les femmes, d'abord, récupèrent les domaines et ensuite créent des domaines. Là, il y en a vraiment de plus en plus, et tant mieux.
C'est parfait ce que tu dis, parce qu'on va parler avec toi, Marie-Élodie.
Du coup, je souris, parce qu'en fait, la cuvée que j'ai amenée à déguster s'appelle la dot, puisqu'en fait, le domaine est dans la famille depuis 5 générations, et nous, il s'est transmis de femme en femme.
C'est un contre-exemple.
Mais non, absolument pas, parce qu'en fait, mon arrière-grand-mère a été propriétaire, mais c'est son mari qui était marchand de biens, qui achetait des vignes, qui les faisait cultiver par des hommes. Et quand lui est décédé, c'est sa femme qui a repris les rênes avec ses 2 fils. Elle avait pourtant 4 enfants, 2 filles aînées, ma grand-mère. Mais elle a remis les vignes, et pourtant ils étaient très jeunes. Elle a remis en fait les vignes à ses fils, alors qu'ils n'étaient pas en âge de reprendre vraiment le domaine. Et elle a fait, finalement, elle a assisté ses plus jeunes très longtemps. Et quand elle-même est décédée, ma grand-mère a récupéré son domaine. Mmh. Et comme les femmes ne faisaient pas de vin, elle a tout mis ses vignes en cave coopérative. Ouais. Donc pendant deux générations, le domaine est resté en cave coopérative. Et c'est pour ça que pour lui rendre hommage en fait, à ma grand-mère, j'ai appelé cette cuvée la dot, hein, parce que c'est avec une parcelle qui était en dot dans son mariage. Voilà. Donc son père l'avait donnée en dot, mais elle n'aurait pas cultivé les vignes et à l'époque, ça ne se faisait pas. Voilà.
C'est exactement ce que tu
décrivais. Oui, donc c'est assez emblématique en fait, de ce qui s'est passé. C'est vraiment le fait de la privation de la faculté de faire du vin par les femmes. Moi, j'ai interviewé une vigneronne il n'y a pas longtemps, qui est une vigneronne très connue, très respectée, et qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit au départ, moi, le vin, c'était pas mon domaine, c'était pas mon projet. Je l'ai fait parce que mon mari était passionné, il voulait faire ça, et moi, j'étais très amoureuse, et je l'ai suivi, et j'ai appris avec lui. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti qu'il y avait... on avait des rôles vraiment très répartis. Hein. Mmh. Et au bout d'un moment, j'ai senti qu'il y avait une envie chez moi de vinifier aussi, et mon mari ne me laissait pas faire, parce que lui, bah, c'était son domaine, quoi. Et en fait, son mari est décédé brusquement, voilà, un accident de vie. Et pour elle, c'est très compliqué de trouver le mot exact, mais pour elle, finalement, ça a été une révélation. Parce que là, elle a dû reprendre le domaine, elle a dû faire le vin, et quelque part, elle a enlevé toute cette frustration qu'elle avait de ne pas pouvoir vinifier. Donc... Bien sûr, c'est un drame et bien sûr, elle a souffert énormément, mais en même temps, c'est là qu'elle est née vigneronne. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que ça, non seulement elle a survécu à un drame, elle a surpassé ce drame, mais en plus, elle s'est affirmée dans un métier qu'elle avait envie de faire, quoi. Donc c'était magnifique. Voilà, ça m'a beaucoup émue.
Sandrine, tu ne vas pas rester avec nous pour toute l'émission.
Non.
Donc, si ça te va, parce qu'on va continuer avec toi, Marie-Élodie, qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit Beaujolais très, très charmant et très charmeur?
C'est un super gamet. Moi, il y a deux cépages que j'aime énormément. C'est le gamet et le poulsard.
Oui.
Voilà. Je suis très fan des jus comme ça, un peu friands, un peu toniques, un peu canaille. Enfin, c'est le genre de vin qu'on a envie de déboucher un peu à n'importe quelle occasion. Ça ne demande pas un savoir-faire, ça ne demande pas un savoir œnologique très élaboré pour comprendre, parce que c'est tellement juste dans le plaisir tout de suite. Et puis derrière, on peut sentir aussi tellement de choses. Les gamets qui sont bien faits, on voit un peu la vigne, on voit le tracteur, on voit le cheval. Enfin, on a l'image directe, quoi. Et on a envie d'aller chercher du fromage et du saucisson. Et on a faim, ou du pâté en croûte. J'ai faim, j'ai envie de pâté en croûte maintenant. Avec ton gamet, c'est horrible.
À 15h15.
Ouais. Donc du coup, c'est pas très régime, hein, les gamets. Mais ça donne envie de... En fait, le gamet, c'est ça. C'est un cépage qui donne envie de faire la fête et de vivre, vraiment. C'est simple. C'est à l'image du Beaujolais, qui est une région magnifique.
En fait, c'est un cépage qui est beaucoup dans l'équilibre.
Ouais.
Le Gamay, puis on a un climat en fait qui s'y prête, c'est-à-dire qu'on peut avoir des vins sur des climats très chauds avec beaucoup de densité, et sur des climats beaucoup plus froids, beaucoup de subtilité et de finesse en fait. Donc, il peut prendre plusieurs visages en fait, mais ça reste toujours un vin digeste et toujours un vin sur la fraîcheur. Donc ça, c'est un point fort, je pense, de la région. Ouais.
Et en plus, il est surprenant même quand il vieillit, on arrive à faire des choses magnifiques.
Exactement.
En fait, le Beaujolais, et là, je vais faire une petite pub pour cette région que j'aime énormément. C'est une région qui a beaucoup souffert d'un déficit d'image, un peu comme les femmes finalement, parce que le Beaujolais, c'est une région qui a été un peu décriée. On a toujours dit que c'était un peu une espèce de parent pauvre de la Bourgogne, ce qui est stupide parce que c'est vraiment deux choses très à part. Mais il y a une telle variété dans la complexité, dans les crus, dans la façon de travailler des vignerons, des vignerons aussi. Il y en a quelques-uns qui font du travail pas mal. Bon, on ne va pas les citer ici, mais non, il y a quelques-uns, ça va, qui se débrouillent. Mais non, il y a une telle complexité, il y a une richesse dans les terroirs. Enfin, c'est une région qui mérite vraiment qu'on la réhabilite et qu'on y fasse attention.
Le Beaujolais et le Gamay comme allégorie de la situation des femmes dans le vin, beaucoup de diversité,
mais pas
assez considéré, c'est ça?
Pas assez considéré, pas assez payé non plus, parce que Beaujolais, c'est galère pour vendre des Beaujolais à des prix corrects et faire vivre les vignerons, c'est pas évident.
Et galère à cultiver galère fait du relief c'est galère de la région. En fait. Ouais, exactement.
C'est, en fait, donc voilà, le Beaujolais, peut-être le Beaujolais est la région féminine du vin. Non, je ne dis pas ça parce que c'est des conneries, mais bah non,
c'est,
ouais.
C'est pas nécessairement faux parce qu'on a, quand même un groupement de vigneronnes, enfin, en tout cas, une population de vigneronnes dans le Beaujolais qui est assez qui est plutôt talentueuse, quoi.
Hein. Il faut du courage pour aller faire du vin au Beaujolais, c'est pour ça que c'est des meufs.
On parle de Marie-Élodie, mais bon, bah.
Il y a Isabelle Perrault qui est là.
J'ai croisé Isabelle Perrault, j'ai croisé Manu Desvignes, il y avait Charlotte Congretel, donc qui est l'épouse de Sébastien Congretel.
On peut citer
Pauline Passot. Donc, et puis encore, on pourrait en se.
Il y a Claire Chasselet aussi.
Voilà. Anne-Sophie Dubois.
Ouais, non, il y a plein de.
Mie Godard qui est ma voisine.
Il y a France Gonzalves aussi en Beaujolais. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de meufs, vraiment. Plein. Donc, non.
Sandrine.
Je vous quitte. Ouais. Je vais aller vaquer à mes occupations de présidente, c'est-à-dire serrage de main, claquage de bises et résolution de problèmes.
J'ai une petite question en guise de clin d'œil. Est-ce qu'il faudrait pas dire merci quand on voit la journée, cette première journée, parce que c'est un peu un jour historique quand même, cette première journée de rencontre des femmes du vin. Est-ce qu'on ne devrait pas dire merci à ces messieurs de la RVF qui t'ont nommé il y a quelques années l'homme du vin?
Ouais, non, moi, après, je pense que je suis persona non grata Dauphino à la RVF pour très longtemps. Mais non, je les remercie vraiment du fond du cœur. En fait, c'est un peu ma philosophie de vie. Quand quelqu'un vous fait une merde ou quand quelqu'un vous emmerde ou vous dénigre, vous devez utiliser ça pour en tirer une force et pour en faire quelque chose de positif. Donc là, c'est positif. Et voilà, on a réuni des femmes. En fait, je pense que c'est très belge. La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Voilà. On est un pays improbable avec plein de nationalités différentes, avec des Wallons et des Flamands qui ne s'entendent pas, des Bruxellois au milieu, il y a un peu des Allemands là, dans un coin. Et on arrive quand même à cohabiter ensemble et on arrive à s'unir et à avoir un objectif commun. Et l'association, c'est un peu ça aussi. Il y a plein de femmes de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les professions. Et on a tout un objectif commun, c'est de s'entraider et de partager des choses. Et je pense que c'est bien parti. Et là, je vais aller picoler un petit coup.
À la tienne. Bravo encore pour l'organisation de cette
journée. Merci Sandrine.
Merci Sandrine Goyvart. Alors, parlons de vin. Marie-Élodie, toi, tu corresponds, tu en as un tout petit peu parlé déjà, à une de ces catégories de femmes dans le vin qui sont au domaine, avec une particularité, c'est que toi, tu es à cheval sur deux domaines. En fait.
Voilà. Alors non, je suis que sur un domaine. Il se trouve que en fait, j'ai fait des études assez longues et j'ai voulu me former au monocépage, mais sur tout autre que le gamay, en fait. Donc je suis partie en Côte d'Or et à cette occasion, j'ai croisé la route de mon mari actuel, qui ne changera pas d'ailleurs, ça restera bien mon mari, c'est pas qu'actuel. Et en fait, il se trouve que c'est un domaine effectivement assez prisé de Côte d'Or, puisque c'est le domaine Confuron côté Tido. Donc ça fait 7 générations qui font du vin, ils faisaient du vin sous Louis XIV. Alors là, pour le coup, c'est que des hommes, toujours que des hommes. Et non, alors moi, c'est vraiment que des femmes. Là, pour le coup, dans ma filiation, ça avait vraiment été transmis de femme en femme. Et en fait, moi, j'ai décidé de faire ce métier à l'âge de 15 ans, puisqu'en fait, ma grand-mère est décédée. Je suis née à Paris, j'ai grandi en ville, et le domaine allait se vendre, en fait. Donc mes parents, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'était évidemment proposer le domaine à mon frère. Voilà, et parce que c'est vrai que oui, c'est dans les codes, hein. Mais mon frère voulait pas du tout être dans le monde rural, donc j'étais vraiment très attachée à ce domaine et j'ai souhaité reprendre à l'âge de 15 ans, mais je connaissais absolument rien au vin. Donc je suis allée me former en lycée viticole et aujourd'hui j'en ai 40, donc quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de filles justement dans ce monde-là. Donc là on n'était pas à 50%, hein. Je pense qu'on était à 10% à tout casser.
Alors, c'était
en formation.
Les chiffres que tu donnais tout à l'heure,
ouais,
c'était en sommellerie.
J'ai dit 60-70%
aujourd'hui,
depuis
ouais.
5 ou 10 ans pour la mention complémentaire sommellerie pour les jeunes sommelières.
C'est pas forcément le lycée viticole où on apprend.
Il y a quand même quelque chose de bizarre parce que ça, c'est depuis 5-10 ans qu'on est même avec un peu plus de femmes, un peu plus de filles pour la mention complémentaire sommellerie. Mais quand on regarde dans l'état actuel dans les restaurants, les femmes sont encore très très rares, parce que il y a un moment, un tournant, C'est-à-dire que dans leurs 20-25 ans, il n'y a pas de problème, on les voit, elles sont présentes, elles sont jeunes sommelières, elles sont sommelières débutantes, elles sont là, elles sont présentes. Et vers 30-35 ans, tout d'un coup, elles disparaissent. Donc on ne sait pas où, il y a plusieurs possibilités. Soit elles disparaissent pour arrêter, parce qu'il faut savoir que la sommellerie, c'est la restauration, c'est un rythme infernal. C'est d'autres difficultés que vigneronne, mais il y a les difficultés des horaires, ce genre de choses. Donc pour la vie familiale, c'est pas évident. Donc elles arrêtent. Est-ce qu'elles arrêtent pour rester à la maison ? Elles arrêtent aussi pour trouver des horaires un peu plus corrects, et elles passent de sommelière de restaurant, des fois, à caviste, par exemple, et on les retrouve toujours un peu dans le vin, ou alors elles changent totalement et elles s'orientent plus dans d'autres métiers de professeur, de communication, ce genre de choses.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'elles n'accèdent pas forcément aux responsabilités ? C'est-à-dire les échelons que chacun gravit, les hommes les gravissent, et peut-être pas forcément les femmes, le fameux plafond de verre, où en gros,
c'est
une très bonne
sûr.
Sommelière. Parce quand tu es junior, tu as ta place, et puis quand tu peux
certain.
Prétendre à des postes plus importants.
C'est certain. Après, ça dépend des postes, mais moi, j'étais plutôt tournée production. J'ai une formation d'œnologue, donc à un moment donné, je me suis posé la question si j'allais reprendre vraiment un métier d'œnologue pur en tant que régisseur de domaine, quand j'ai vu que c'était assez fermé. Par rapport justement à un statut plutôt féminin, et que les postes qu'on me proposait, c'était toujours en retrait. Je me suis dit, je me lance vraiment, parce que en fait, le poste que je veux, c'est vraiment le poste le plus haut. Et aujourd'hui, c'est pas sur des jolis domaines, des pépites en fait, de la Côte d'Or ou ailleurs. On peut les compter sur les doigts d'une main, même le nombre de femmes qui sont en poste et qui ont des vrais postes de régisseur.
Donc finalement, c'est plus simple de tout prendre de zéro et de faire sa propre exploitation pour
et
être,
voilà,
se mettre à bord.
Parce que dans la sommellerie, il y a vraiment ce tournant de carrière qui arrive avec la décision de fonder une famille et d'avoir des enfants. Et plus que le plafond de verre, parce que ça y est, depuis quelques rares années, les patrons de restaurants, les grands responsables de restaurants sont plus enclins à laisser la place aux femmes. Mais il y a ce tournant dans la vie où tu te dis, j'ai envie d'avoir des enfants, comment je vais faire pour rendre compatible mon métier, mes horaires avec ma vie familiale. Je sais, j'en parle par expérience, moi ça a voulu dire de faire une pause et d'être professeur de sommellerie dans une école, parce que quand tes enfants étaient petits, pour avoir un... Alors après, j'ai fait partie des rares qui sont revenus dans la sommellerie pure et dure. J'ai aménagé ma vie familiale à ma façon, un peu atypique. Mais il y a, c'est vrai, un peu ce côté où, ah bah oui, mais si c'est toi la responsable de vin qui va commander les caisses, comment tu vas faire pour les ranger ? Comment je vais faire pour les ranger ? Je vais faire comme tout le monde, peut-être qu'au lieu de prendre 4 cartons d'un coup, je les prendrai que un par un, mais j'en suis capable. On trouve des méthodes, on adapte le truc, c'est la même chose.
Ah oui, en cuverie, on est obligé d'adapter beaucoup de choses, parce qu'en fait... je travaille quand même avec des hommes, et quand il sert simplement un raccord sur un tuyau, je me balade en fait avec une clé dans la poche pour desserrer derrière eux, parce que j'ai pas la même force qu'eux. Donc je leur demande surtout de pas
serrer comme des mules.
Voilà.
Arrêtez d'être des hommes.
Et d'ailleurs, c'est très très mauvais pour les joints. Donc finalement, il vaut mieux que les femmes travaillent en cuverie.
Avant qu'on commence, qu'une cuverie d'hommes n'était pas la même chose qu'une cuverie de femmes.
Non, c'est vrai qu'il faut adapter. Par exemple,
le matériel souffre moins, je pense.
Oui, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il faut être astucieux en fait. On réfléchit peut-être, comme on n'a pas la même force, on est obligé de trouver des astuces en fait pour pouvoir travailler. Donc, mais après, tout se fait. Je pense que là où c'est le plus dur, c'est pas forcément en cave, c'est plus à la vigne. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent maintenant à la vigne, mais pour des travaux précis, manuels. Et finalement, il y a beaucoup de femmes qui se font embaucher pour ça, parce qu'elles ont le souci de bien faire et de la précision. Et moi, j'avoue que plus ça va et plus je me dis, en saisonnier, je vais prendre des femmes, parce que quand on leur demande quelque chose, elles veulent bien faire. Elles avancent peut-être pas au même rythme, mais elles ont toujours envie de faire bien. Voilà.
Pour la coupe, pour la vendange, par exemple.
Par exemple, ébourgeonner, voilà, pour tout en fait. Hein. À chaque fois, même sur le tri à la vendange, très souvent, je passe derrière les hommes comme les femmes, et je me rends compte que les femmes ont plus le souci de bien faire. Voilà. Après, j'aime pas le voilà cataloguer.
Mais
oui, voilà, mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut observer quand même. Après, c'est assez amusant d'ailleurs.
Quand je fais une grosse commande et que je sais que je vais avoir quelques dizaines de cartons, moi je préviens mon collègue. Il aime beaucoup faire de la musculation. Je lui dis bon bah demain, c'est pas la peine que t'ailles à la salle de sport faire de la musculation. Tu vas passer ton après-midi avec moi. Tu vas voir, tu vas avoir ta petite séance gratuite. Puis voilà, on s'organise, on s'arrange. Mais oui, bah on va moins vite peut-être avec le diable. On passe pas les escaliers avec le diable.
Ça, c'est la dimension physique. Mais on parle beaucoup, quand on parle du féminisme dans son ensemble, on parle beaucoup de mansplaining, du côté l'homme sait et il explique. Il me semble que tu nous avais parlé, Florence, aussi du fait qu'une femme qui arrive chez un caviste, elle va pas avoir la même, elle va parler plus librement quand c'est une caviste qui vient la voir que quand c'est un caviste où elle va pas oser. Voilà. Est-ce que ça, au niveau, on va revenir sur la sommellerie, mais est-ce que ça, au niveau de faire du vin, toi qui es marié à quelqu'un qui fait du vin, alors sans parler précisément de ton mari, mais est-ce que d'une manière générale, tu as aussi ressenti le côté, bah, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe, quoi.
Avec mon mari ?
Non, pas nécessairement ton mari, général. Mais d'une manière générale, une femme vigneronne, est-ce que...
Oui, ça arrive, ça arrive, mais non, en fait, il y a aussi le fait que je pense que les gens respectent parce que j'ai un niveau d'études. Et ça, en général, on me taquine pas trop là-dessus. Parce que dès qu'on rentre dans la technique, bah, faut avoir un peu de répondant, mais voilà.
Je confirme. Là-dessus, Marie-Élodie en professeur.
Là-dessus, je suis pas trop dérangée. Mais c'est vrai qu'une fois, je fais un salon qui est en Beaujolais et qui est le plus gros salon en Beaujolais. C'est bien boire en Beaujolais. Voilà. Et
on en parle quasiment dans tous les épisodes. À chaque fois que Philippe est là, il le glisse.
Il se trouve que mon mari est venu un quart d'heure à ce salon pour voir un petit peu si je m'en sortais, si j'avais besoin d'un coup de main. Et au bout d'un quart d'heure, je l'ai viré parce qu'en fait, les gens n'arrêtaient pas de s'adresser à lui, en fait. Et ils ne savaient pas forcément qui il était. Je pense qu'ils n'avaient pas compris que c'était le domaine Confuron côté Tido. Mais c'était simplement un homme. Et en fait, les gens s'adressaient qu'à lui en pensant que c'était lui qui faisait les vins, alors que pas du tout. Donc au bout d'un moment, j'étais obligée de lui demander de partir gentiment, alors que j'adore mon mari, et j'étais contente de le voir, mais là, j'avais pas envie que les gens s'imaginent que c'était lui qui faisait le vin, quoi, ce qui est pas du tout le cas, donc voilà.
Sur l'attitude d'une cliente qui cherche des conseils, toi, tu...
En fait, en tant que caviste... c'est vrai que quand un homme vient dans une cave à vin, il regarde. On ne sait jamais, derrière la dame, il y a peut-être un homme de cachet. Bon, voyant qu'il n'y a pas d'homme de cachet, bon, il se lance. Et la façon de faire sa demande de vin est très différente. Un homme va vous dire, alors je veux un Saint-Émilion. Il va vraiment vous parler de l'appellation ou alors du cépage ou de la région. Alors qu'une femme qui va venir chez un caviste, quand elle s'adresse à une autre femme caviste, elle va dire « Moi, j'ai envie d'un vin qui a ce goût-là. Je cherche quelque chose de fruité ou quelque chose de sec ou quelque chose... » Elle va exprimer ses goûts. Et c'est vrai que quand, je l'ai vu pour avoir travaillé aussi dans des caves où on était hommes et femmes, quand elle va chez un caviste et que c'est l'homme caviste qui lui répond, elle est là un peu gênée. Je veux quelque chose de minéral. Je crois que ce que j'ai l'habitude de prendre, c'est du chardonnay. Je crois que c'est... Et pourquoi elle croit ? Il n'y a pas de raison de croire. Il suffit de dire j'aime ce goût-là, j'aime ce style-là, j'aime ce vin-là. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport homme-femme un petit peu différent. Et puis, oui, et puis même en tant que caviste, on a aussi les hommes qui rentrent, qui regardent. Qui sont déçus qu'il n'y ait pas d'hommes pour leur répondre et qui repartent aussi secs, ou alors encore un autre cas encore plus lourd, ceux qui vous posent des questions pièges. Je vais lui poser les questions pièges, voyons voir si elle connaît les cépages de Bordeaux. Je vais la tester. Si elle répond bien, je lui achèterai peut-être du vin. Voilà, il y a une sorte de compétition dans l'esprit masculin, mais après ça change énormément. La jeune génération de clients sont beaucoup plus ouverts et ils ont une vision un petit peu différente. Pour eux, le vin, dans cette jeune génération, c'est un petit peu compliqué, on ne leur a pas forcément donné les codes. Ils ont plus une connaissance un peu sur un type cépage que sur un type appellation. Ils vous disent, j'ai envie d'un truc dans ce style-là, j'ai envie d'un truc dans cette gamme-là, dans ce budget-là, qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Et ils sont beaucoup plus ouverts à la découverte.
Y compris les femmes.
Voilà, femme ou homme. Il y a, la différence avec cette nouvelle génération est beaucoup plus ténue, femme et homme.
Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a une différence de goût générale, constatée ? Est-ce que les femmes préfèrent tel type de vin ? Et après, j'ai envie qu'on parle d'un truc, d'un énorme, une énorme tarte à la crème qui est le vin féminin et qu'on se débarrasse de ce truc bizarre. Mais est-ce que, de manière générale, il y aurait une façon, un goût de femme pour certains vins ? Ou est-ce qu'on peut tordre le cou à cette idée ? En gros, très répandu dans les générations précédentes, c'était des vins sucrés, j'imagine. Hein, voilà. Est-ce que toi, tu rencontres encore ces sortes d'archétypes ? Ou est-ce que tu as des nanas qui rentrent et qui veulent autant des vins tendus,
là,
des vins généreux
autour de la table, on a deux vignerons, une vigneronne, un vigneron. Ce serait dire que les vins de Marie-Élodie sont tout en rondeur, en souplesse. Ça voudrait dire que les vins de Philippe sont charpentés. Non, c'est pas ça. Donc la rondeur pour un vin féminin, ça veut rien dire. Le côté charpenté pour un vin masculin, ça veut rien dire. Alors oui, il y a ce côté un petit peu, on en a parlé, du caviste pas terrible, homme, qui va dire, tiens, voilà une femme qui vient me chercher un vin, je vais lui proposer forcément un rosé sucré fifi.
C'est rosé pêche. Mais, c'est à ça que je pensais, plutôt que, la,
ouais,
mais que le travail des vignerons.
Le rosé sucré fifi, c'est fini, ça. C'est... Oui, même les cavistes, ils veulent quand même faire de l'argent, donc ils l'ont bien compris. Hein. Faut arrêter de proposer des rosés sucrés aux femmes.
Puis après, quand vous êtes
C'est pas ça qui va leur faire gagner des clientes.
Et puis quand vous êtes vigneronne dans une région chaude dans le sud, avec des cépages qui sont quand même qui ont de la puissance, vous allez peut-être pas faire des vins féminins entre
Alors,
guillemets.
En fait, moi j'ai pas l'impression que l'expression vin féminin désigne des vins qui sont faits par des femmes.
C'est non, pas
plus,
du tout.
C'est plus un truc.
C'est une image qu'on se donne, mais
c'est le journaliste. À mon avis, même les critiques n'osent plus tellement utiliser aujourd'hui.
C'est les journalistes mauvais parce que. C'est le côté, on va prendre un exemple d'un vin qu'on a dégusté ensemble. On dit souvent des vins de Lucien Lemoine, oh, c'est tout en rondeur, c'est féminin, c'est souple, monsieur Lucien Lemoine, comme vous faites des vins féminins. Bon, quand on connaît un peu le bonhomme, la stature du bonhomme, la rondeur, la souplesse, la finesse, c'est un peu ridicule. Donc heureusement, ce sont des termes qui sont en train d'être abandonnés et qu'on entend
moins
en moins.
Mais même dans les régions, nous, Fleury est réputé pour être le cru le plus féminin.
Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Parce que c'est, je pense, historiquement, c'est un cru qui n'était pas forcément vinifié sur des extractions longues. À Moulin à Vent, par exemple, ils avaient l'habitude de griller les raisins, c'est-à-dire qu'en fait, ils les mettaient dans le jus et ils les bloquaient dans le jus. Donc, en fait, c'est avec des extractions très, très longues. Et du coup, on peut faire dire ce qu'on veut à un vin, dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler les raisins. Donc, on peut effectivement, si on veut cataloguer et dire un vin qui est justement sur la finesse, sans trop d'aspérité, on va dire que c'est féminin. Mmh. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui aiment ces vins-là. Et
c'est même le goût général.
Complètement.
On parle souvent de l'évolution des goûts, du fait qu'on
Exactement.
Va aujourd'hui vers plus de
aujourd'hui,
finesse,
on va
beaucoup
plus
de fraîcheur.
On cherche
l'attention.
La buvabilité, surtout.
La buvabilité, c'est un terme qui revient tout le temps, mais pas
Alors,
spécialement chez les femmes,
a,
chez les hommes.
Non, il y a une différence aussi au niveau de la clientèle de... comment dire, d'histoire du vin. En France, on a eu pendant très longtemps, sur une génération plus ancienne, de la recherche de Bordeaux très charpenté avec des arômes très tertiaires. C'est vrai que notre clientèle au jour d'aujourd'hui s'est rajeunie et donc a des exigences différentes. Donc oui, cette histoire de buvabilité, de finesse, de souplesse, de rondeur, de choses très, très délicates. Mais moi, je pense à la clientèle... américaine et surtout à la clientèle australienne, les femmes australiennes au restaurant, elles vous disent souvent I want a red wine with board. Je veux un truc charpenté, costaud, qu'envoie du lourd, quoi.
Couillu. Oui, c'est ça. Ouais, mais board.
N'ont pas peur du bord.
Voilà. Un vin donc, mais pourtant, ce sont des femmes. Ce sont des femmes assez jeunes. C'est les goûts. C'est l'historique des goûts. On n'a pas forcément les mêmes envies et les mêmes goûts quand en fonction de d'où on vient et de la façon dont on a été élevé.
Et puis ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que quand même, le vin, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. On a quand même beaucoup, en tout cas de plus en plus de femmes qui au niveau de leur goût vin, savent ce qu'elles veulent et s'y connaissent très très bien. Donc... Je pense que c'est des notions un peu passées, quoi.
C'est ça, tout ça c'est du...
Voilà. Les niveaux se sont lissés, les hommes s'y connaissent peut-être un peu moins et les femmes s'y connaissent un peu plus, donc finalement tout le monde s'y connaît à peu près autant.
Alors, ouais. Si on veut faire un panorama...
Moi j'avais peut-être une question à poser à Marie-Élodie, elle est sans doute aussi tarte à la crème, mais... Est-ce que toi, Marie-Élodie, en tant qu'épouse d'un vigneron qui avait déjà une forte réputation, tu as senti que en tant que vigneronne qui montait son domaine et puis qui débutait, on t'attendait un peu au tournant et qu'on te regardait?
Alors plus parce que j'ai repris un domaine qui avait été exploité pendant deux générations par des gens, des locaux. Puisqu'on avait confié nos vignes en métayage, hein, donc en fait on partageait le fruit. Par moitié, mais c'était là pour le coup des hommes qui cultivaient les vignes. Les gens arrivaient à la retraite, donc j'ai pris le boulot de personne. Mais malgré tout, quand on a quitté une région viticole et qu'on y revient, forcément que les gens, en tout cas, observent. Et en plus, j'arrivais avec la volonté de faire des vins d'antan. Donc revenir un siècle plus tôt et reprendre les techniques d'antan. Donc c'était un parti pris, hein. C'était pas forcément gagné d'avance. Mais par rapport à mon mari, je l'ai vraiment voulu ni subir ni son image, puisqu'en fait le domaine s'appelle le Clos de Mèze et pendant très longtemps en fait j'ai tu mon nom d'épouse. Donc j'ai vraiment
justement pour pas être jugé là-dessus, pour
c'est
pas
surtout
que ça vienne
en fait,
interférer,
voilà c'est ça. En fait, je voulais pas que les gens s'imaginent que il soit à l'origine de ce vin-là, puisqu'en fait même si on dialogue énormément, même si on goûte régulièrement nos vins, les gens vont plus facilement s'imaginer qu'il vient me donner des conseils ou qu'il vient vinifier chez moi plutôt que l'inverse.
Eh oui.
Alors que très souvent on échange sur nos vins et sur les choix qu'on fait et puis on n'est pas toujours d'accord non plus. Donc moi j'avais envie d'avoir des vins qui me ressemblent. C'est pour ça que je me suis cachée de son nom au début. Maintenant les gens le savent, le domaine a fait ses preuves.
Combien de millésimes ?
J'ai démarré en 2006, hein. Donc voilà. Bon, j'ai presque fait un millésime blanc en 2016 pour mes 10 ans, puisqu'on a grêlé à 95%. On a fait que 1200 bouteilles, donc c'était un peu des vacances forcées. Mais voilà, ouais, non, ça commence à maintenant. On commence à avoir un petit peu d'expérience sur le gamay.
Si on reste dans l'univers des femmes du vin, on a parlé beaucoup du domaine. En fait, il y a quand même d'autres. Des exploitations, il y a quand même d'autres pans de l'économie générale du vin. Je pense à la distribution, on en a un peu parlé avec des cavistes et des sommelières. J'ai l'impression que peut-être la partie dans laquelle on a le plus de femmes, c'est la communication, la presse. On peut tous citer, moi je peux citer autant de journalistes vins femmes que hommes qui sont pratiquement tout
les agents aussi.
Aussi
il y a
sur
de
le devant
de
la scène.
Plus en plus d'agents.
Alors sur le négoce, moi j'ai, en préparant un petit peu, je me suis dit, il y a bien un territoire, le négoce, où j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de femmes que ça. Toutes les grandes maisons d'abord, c'est des. Gérard Bertrand, Chapoutier, si on les prend tous les uns après les autres, c'est que des noms d'hommes. Des agents, est-ce qu'on trouve des agentes? On avait reçu ici Daniel Géraud, qui est agente de vigneron depuis de nombreuses années, mais est-ce qu'elles sont aussi nombreuses que les agents? Est-ce que dans cette partie business, négoce.
Bah déjà, il y a beaucoup de domaines, de petits domaines, hein, qui ont un statut négoce. Parce qu'aujourd'hui, le terme négoce veut tout dire et rien dire. négoce, on imagine une grosse structure qui fait des millions de cols, alors qu'en fait, un petit vigneron peut être négociant. Donc, il y a des femmes vigneronnes qui sont aussi négociantes.
D'accord.
Bon, moi, c'est pas ma volonté, je suis artisan vigneron et absolument pas négociante, mais s'il y a autant de femmes à la tête de domaine, hein, elles peuvent être tout à fait négociantes aussi, en fait.
Donc. Toi qui es en contact avec beaucoup d'agents de vignerons, c'est,
agents,
c'est équilibré, on est quand même sur une majorité d'hommes.
On est sur moitié-moitié maintenant.
Ah oui,
ouais. Pareil. Après, en fait, au niveau des agentes, il y en a quelques-unes sur une génération un petit peu plus ancienne où elles sont très rares, mais elles sont très impliquées et elles sont vraiment référencées comme... comme des incontournables. On a parlé de Daniel Géraud, voilà, il y en a plusieurs. Mais dans la jeune génération, c'est pareil, hein, il y a beaucoup d'agents. Et en fait, peut-être qu'elles sont moins nombreuses, mais elles sont tellement présentes. Elles vous appellent, elles vous envoient des mails, elles passent comme ça, elles font « c'est juste pour vous faire un petit coucou, on était dans le quartier, tout va bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez besoin d'un réassort ». Enfin, elles sont ultra présentes. Donc finalement, quand on fait le bilan sur 6 mois, sur le nombre d'agents que vous avez vu autant de fois des agents femmes que des agents hommes. Alors peut-être qu'il y en avait un petit peu moins d'agents femmes, mais comme elles sont passées plus souvent, finalement, ça revient au même.
Elles occupent bien le terrain.
Bah, le
faut en faire plus.
C'est une différence de vision. Beaucoup chez les agents hommes, c'est j'ai un très bon produit, tu vas forcément le vouloir. Alors que chez les agents femmes, c'est j'ai un truc à te faire découvrir, tu verras, il faut vraiment que tu le connaisses. Et l'homme se dit tu le veux, et la femme se dit tu veux le connaître. C'est un petit peu différent. C'est une vision, une accroche un petit peu différente auprès des sommeliers et des cavistes. C'est une façon différente de faire le job. Même si, comme je dis, la nouvelle génération, c'est en train de se lisser et les nouveaux agents hommes sont un peu plus dans cet état d'esprit. J'ai quelque chose à te faire découvrir, j'ai quelque chose à te faire connaître. Alors que c'est vrai que cette ancienne génération d'agents hommes était un peu, j'ai un catalogue, je suis sûre de moi, c'est les meilleurs vins, c'est les plus connus, il te les faut forcément, tu vas forcément me les commander. Et il y avait un peu moins ce côté, je veux me battre pour faire découvrir le vigneron, je veux me battre pour faire découvrir la cuvée. Voilà.
D'accord, ça évolue aussi dans ce monde-là. Alors, je m'étais dit, on pourrait repasser un petit peu en revue aussi, on a parlé de vin féminin, mais quelques clichés. Il y a un épisode que tu as cité dans ton intro, Florence, c'était au restaurant, systématiquement, on fait goûter, enfin, peut-être pas systématiquement, mais c'est quand même très fréquent, on fait goûter le vin à l'homme. Alors, toi, Marie-Élodie, quand
oui, là,
vous,
ils ont
allez, vous allez en couple, vous êtes tous les deux vignerons,
oui,
est-ce que ça se présente encore
toujours. Toujours, en fait.
Mais c'est fou, ça. Est-ce qu'on peut dire au sommelier, poser la question ? Tout simplement,
non, alors
poser
après,
la question.
Si, non, il pose assez régulièrement la question, quand même.
D'accord.
Et puis, bon, c'est vrai que ça dépend des restaurants. Mais très souvent, c'est vrai qu'ils connaissent très bien, on réserve sous le nom de mon mari. Et si c'est des sommeliers, ils connaissent le domaine, donc très souvent, ils lui proposent. Et du coup, mon mari, c'est un gentleman, hein, donc il dit non, faites déguster mon épouse. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très souvent le cas, hein, que ce soit finalement plutôt à mon mari qu'on propose de goûter.
C'est un grand classique, hein. Et parfois.
Parce que moi, en tant que professeur, j'ai toujours donné une règle à mes élèves en leur disant si vous êtes sur une table de plus de 2 personnes, vous demandez qui désire choisir le vin et vous ferez donc goûter à la personne qui aura choisi en général. Si vous êtes sur une table de 2, ça prend combien de secondes de mettre un petit peu à goûter pour madame et pour monsieur ? Ça prend pas plus de temps et c'est tellement, il y a tellement plus de plaisir à être à 2, à découvrir le vin en même temps.
Mais voilà le bon conseil.
Voilà, comme ça, il n'y a pas de qui va goûter ou on fait goûter automatiquement à monsieur. Ah bah non, finalement, c'est madame qui va goûter. Hop, vous faites goûter aux 2. Mais c'est vrai qu'il y a encore une réflexion, moi, qui me choque. Alors, je l'ai moins souvent, mais... Non, mais c'est monsieur qui goûte, c'est lui qui connaît mes goûts. Mais Mais affirme-toi, dis ce que tu aimes. C'est quoi ça? C'est monsieur qui goûte, c'est lui qui connaît mes goûts, c'est lui qui sait ce que j'aime. C'est ce que tu aimes, donc c'est toi qui dois savoir, c'est à toi de me le dire. Et c'est choquant, mais on en a encore quelques-unes des comme ça qui ne s'affirment pas et qui attendent que monsieur choisisse pour elles. Monsieur va choisir un verre de vin pour lui et monsieur va choisir son verre de vin à elle différent parce que monsieur sait mieux qu'elle ce qu'elle aime. C'est choquant.
C'est
quoi.
La notion d'empowerment, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes doivent cesser, enfin en tout cas certaines, oui. qui intègrent en fait...
Puis s'approprier en fait s'approprier ce sujet-là
le
aussi.
Vin comme le reste, ouais. comme l'ambition professionnelle, comme le goût pour des sports extrêmes, enfin peu importe, mais il y a un travail du côté des femmes.
Il y a autant de travail à faire du côté des femmes que du travail du côté des hommes.
Et on les invite à le faire. Et une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment à ça qu'elle sert aussi, pour que toutes ces femmes du vin se rencontrent. On va peut-être terminer là-dessus. Marie-Élodie, une journée comme aujourd'hui, pour toi, c'était évident que tu voulais t'y rendre. Ça te paraît important,
cette
démarche ?
La première de l'association. Donc, je pense qu'il fallait être là, en fait. C'est juste aussi soutenir l'association et puis montrer. Et là, c'est amusant parce qu'en fait, aujourd'hui, on compte les hommes. Habituellement dans les salons on compte les femmes. Exactement. Aujourd'hui on compte les hommes.
C'est d'ailleurs Philippe et moi on rase les murs.
J'ai senti presque gêné ce matin parce qu'il était tout seul au milieu de plein de femmes et il s'est senti bien seul, mais c'était très drôle.
Je trouve ça plutôt sympa.
C'était très drôle. Enfin moi si je peux rajouter quelque chose, je trouve que ok on a notre place nous les femmes dans ce métier, mais je ne me verrais pas toute seule femme à la tête de mon domaine. Hein. Je travaille avec un homme et je pense que c'est la mixité qui fait la valeur aussi du domaine. C'est qu'on ne réfléchit pas de la même façon, on ne pense pas aux mêmes choses au même moment, on n'a pas du tout la même subtilité, on n'a pas la même force. Enfin, en fait, c'est vraiment la complémentarité qui fait la force de notre domaine. Voilà. Après, ce n'est pas mon mari. C'est quelqu'un sur qui je peux me reposer, mais parce que clairement, la vigne, c'est quand même un métier physique et il y a plein de choses qu'une femme ne peut pas faire. Donc, on est deux et franchement, on n'est pas trop de deux. Voilà.
Bah merci Marie-Élodie, bravo pour cette cuvée La Dot.
Fleury
La Dot 2016.
Gamay très élégant. Fleury du domaine qui s'appelle le Clos de Mez, MEZ. Voilà, donc on a compris qu'on pouvait te retrouver à bien boire en Beaujolais, évidemment.
Aussi, je vous invite.
Toute cette belle famille de.
À Beaujolart, précisément.
Voilà, on fait des Beaujolais d'artisans. Voilà.
D'accord.
Les vins d'Éric aussi y sont.
C'est un sous-ensemble de BBB.
Bah, c'est une des associations, c'est la troisième association qui s'est montée.
Au sein du salon.
Au début, il y avait la Beaujolaise et puis.
Il y avait la Beaujolaise et surtout la Beaujoloise.
Oui, la Beaujoloise. Et puis après,
au départ, c'était la Beaujoloise.
Voilà. Simplifiez-nous la vie, les gars. Là.
Ouais. Et puis, ensuite,
c'est pour ça les 3 B, en fait. BBB, c'était Beaujoloise, Beaujolaise et après Beaujolart.
D'accord. Voilà. Ben voilà. Et ben, pourquoi pas, on pourrait s'y rendre. Là, c'est un peu la dernière de l'année.
L'année prochaine.
À Women Do Wine, on est ravis. Et pourquoi pas ouais, aller faire un petit tour à bien boire en Beaujolais. C'est au printemps, non? C'est en avril?
Avril.
Avril, ah, c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci bien.
Je te laisse conclure.
Bah, si tu veux, écoute, t'as fait l'intro, je peux faire la conclue. Elle est quasiment faite. Une belle journée de rencontre Women Do Wine. On va aller déguster quelques vins. On va aller rencontrer des vignerons et pas que des vignerons, tout un tas de femmes qui travaillent dans le vin. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook et maintenant sur un site internet, laterreaboire.com. On n'arrête pas le progrès. Bonne continuation, Marie-Élodie. Continue
merci
avec ses
beaucoup.
Beaux vins. Et puis une belle journée et un bel été à tous alors.
Bel été, on se retrouve bientôt.
Salut, ciao.
Au revoir.
Au revoir.